Vous écoutez, on lit pour vous.
Un automobiliste désavantagé par son handicap face à son assureur. Un texte de Mélissa Pelletier, paru le 2 octobre 2024 dans Radio-Canada. Une compagnie d'assurance a refusé l'avenant valeur à neuf à une personne handicapée parce que son véhicule a été modifié. En cause, l'absence de distinction entre des modifications apportées pour la performance et l'esthétisme et celles requises pour l'adaptation d'un véhicule. David Migneron a 36 ans. Il se remet difficilement d'un cancer du cerveau, diagnostiqué en 2017. La maladie lui a laissé des séquelles pour la vie, affectant sa motricité du côté droit. Il est devenu une personne handicapée. Père de 3 enfants en bas âge, il souhaite collaborer à la vie familiale malgré ses incapacités. Électricien de métier, il ne peut plus travailler et doit faire le deuil de beaucoup de choses. Heureusement, il peut tout de même conduire. C'est l'une des choses qui lui tenait vraiment à cœur, car pour lui, c'est un synonyme de liberté. Au début, je pensais que je ne conduirais pas. C'est un cadeau de la vie. En 2021, M. Migneron et sa conjointe, Marie-Hélène Dion, achètent un véhicule neuf pour répondre aux besoins de leur famille qui s'agrandit. J'étais enceinte de notre deuxième enfant. J'avais une petite voiture et on s'était dit que, tant qu'à avoir une famille, on allait prendre un plus gros véhicule. Puis, David se sentait prêt à vouloir conduire, relate Mme Dion. Prêt à conduire. David Migneron n'a alors pas conduit depuis 4 ans. Il rencontre une ergothérapeute qui évalue les adaptations à effectuer sur le véhicule pour qu'il puisse conduire. Il faut obligatoirement que je prenne une boule au volant et puis les pédales sont inversées, explique M. Migneron. Sur cette boule au volant, tout est au même endroit, le klaxon, les essuie-glaces et les clignotants. M. Migneron doit apprendre à les utiliser. Il suit des cours de conduite avec ses adaptations. Une fois l'examen réussi, il obtient son permis de conduire avec les mentions spéciales recommandées par l'ergothérapeute. « Mon permis de conduire, je l'ai passé », souligne-t-il. Les adaptations au véhicule. Au Québec, les modifications au véhicule pour une personne aux prises avec un handicap qui ne résulte pas d'un accident de la route sont payés par le programme d'adaptation de véhicules du ministère des Transports. C'est la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, qui gère ce programme. Plusieurs conditions doivent être respectées pour y être admissibles, comme celle d'avoir l'intention d'utiliser le véhicule pendant au moins 5 ans. Pour répondre aux exigences de la SAAQ, le couple achète un véhicule récent. Leur choix s'arrête sur un VUS. Un accident de trop. 3 ans plus tard, en mars dernier, David Migneron a un accident en allant porter son fils à la garderie. Le véhicule est une perte totale. Puis, les troubles commencent, commente-t-il. Pour Mme Dion, c'est la catastrophe. J'ai pleuré. J'étais un peu découragée de la situation, affirme-t-elle. Le couple n'a alors plus de moyens de transport. Avec 3 jeunes enfants, les parents veulent rapidement remédier à la situation. Ils sont limités dans leur choix. Il faut un véhicule assez gros pour toute la famille et assez récent pour être admissible au programme d'adaptation de la SAAQ. Ils choisissent finalement de racheter un VUS neuf à plus de 49 000 $. Le couple fait toutefois une grave constatation. Puisque leur police d'assurance n'inclut pas l'avenant valeur à neuf, leur assureur leur rembourse 35 000 $ pour l'ancien véhicule, alors que le nouveau coûte 49 000 $. Ils doivent donc débourser plus de 14 000 $ de leur poche. Cet avenant n'est pas obligatoire. C'est un ajout à la police d'assurance. C'est une prime additionnelle qui vise à protéger l'assuré contre la dépréciation de la valeur de son véhicule. On a vu que, si on n'avait pas la valeur à neuf, on était pas mal perdant. Ça prend une valeur à neuf. S'il arrive quelque chose, on ne peut pas se le permettre. on ne peut pas se surendetter non plus. Refus de l'avenant valeur à neuf. Le couple avait déjà fait la demande pour obtenir l'avenant valeur à neuf dès que M. Migneron avait pu reprendre le volant en 2021. Mais comme le véhicule avait été modifié, TD Assurance lui avait refusé cet avenant, selon Mme Dillon. À ce moment-là, je n'ai pas poussé plus loin parce que j'étais enceinte. Je me suis dit, bon, on ne peut pas avoir la valeur à neuf, mais je trouvais ça dommage étant donné que c'était une voiture neuve, explique-t-elle. Après l'accident, le couple a insisté de nouveau pour obtenir l'avenant valeur à neuf pour son nouveau VUS. TD Assurance a refusé encore une fois. Un agent a alors fait une révélation importante à Mme Dillon. « Dès que j'ai dit à la personne que le véhicule est adapté, il me dit « Non, ça bloque dans le système, c'est impossible qu'on vous donne la valeur à neuf. » Puis j'ai demandé pourquoi. Il a dit « Mes supérieurs me disent que c'est toute modification. » Une citation de Marie-Hélène Dillon. Un véhicule adapté ou un véhicule modifié? Le problème, c'est que dans son système, l'assureur ne fait pas de distinction entre un véhicule modifié pour des raisons esthétiques ou de performance et un autre adapté pour une personne en situation de handicap. Madame Dillon est surprise et fâchée. J'ai dit « Oui, mais il y a une différence entre une adaptation de performance ou esthétique et un choix de la personne. » Puis, une adaptation, c'est pour que la personne puisse conduire le véhicule. Très impliqué dans la défense des droits des personnes en situation de handicap, Paul Lupien, président de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COPHAN, croit que cette pratique est inéquitable. C'est facile de cocher « modifier » puis dire « Ah ben là, ça ne marche pas. Moi, je ne peux plus rien faire pour toi. » Je trouve aberrant qu'on ne mette pas une case « adaptée ». Madame Dillon a mal réagi aux propos de l'assureur. « Si vous pensez que je vais rester avec une compagnie d'assurance qui discrimine les personnes à mobilité réduite, oubliez ça. On va canceller l'assurance. Je m'en vais ailleurs. C'est pas vrai que je vais rester avec une assurance qui discrimine les personnes handicapées. Je trouve que c'est de la discrimination pure. » David Migneron. Une exception dans la charte, avec des preuves. En principe, la Charte québécoise des droits et libertés de la personne interdit la discrimination. Elle prévoit cependant une exception pour les compagnies d'assurance qui peuvent discriminer en fonction de l'âge, du sexe, de l'état civil et de l'état de santé. Elles doivent par contre avoir des preuves du risque plus élevé. Le juriste renommé en droit de la personne, Julius Gray, pense que refuser un avenant au couple est discriminatoire. Il explique. Le véhicule a été modifié, non pas pour être plus sexé, mais pour pallier un handicap. Il me semble que la Charte québécoise devrait s'appliquer. Notre système n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas une excuse pour la discrimination. On ne peut pas dire que notre système n'est pas fait pour ça. Il faut modifier les systèmes. » Une citation de Maître Julius Gray, avocat chez Gray Casgrain. Une autre source d'indignation pour le couple. TD Assurance n'a rien à payer pour les modifications au véhicule puisque ces dépenses sont assumées par la SAAC, et ce, même en cas d'accident. Monsieur Lupien tient à préciser qu'avec la SAAC, on passe une inspection. Il vérifie que le travail a été bien fait, que le véhicule est sécuritaire, donc on n'est pas pire conducteur qu'un autre. Découragé, le couple s'est tourné vers son concessionnaire et a souscrit à une assurance de remplacement. Cette nouvelle assurance lui coûte près de 3 000 $. C'est beaucoup plus cher que de payer pour l'avenant valeur à neuf. Cela s'ajoute aux 14 000 $ que le couple doit payer parce qu'il n'a pas eu la valeur à neuf. Ces montants pèsent lourd sur ses finances. David est en invalidité et moi je suis maman à la maison en congé de maternité à 55 % de mon salaire. Ce n'était pas prévu dans le budget, constate Mme Dion. Ils ont aussi fait affaire avec un courtier pour changer de compagnie d'assurance. Une industrie qui doit se mettre à jour. Selon les dernières données disponibles à la SAAC, il y avait en 2022 plus de 9000 véhicules modifiés pour l'esthétisme ou pour améliorer leur performance sur les routes du Québec. Près de 1500 demandes d'adaptation, y compris les adaptations, remplacements, réparations, ont été faites en 2022 dans le but de modifier un véhicule pour permettre à une personne handicapée de se déplacer. Paul Lupien croit que les assureurs doivent revoir leur système. Le choix des mots est important, puisque « modifier » et « adapter » ne signifient pas la même chose. L'industrie doit faire ses devoirs et doit se conformer aux lois. Et de dire, bien, quand c'est adapté, c'est une personne handicapée. On doit inclure la personne. On parle d'inclusion. Le Bureau d'assurance du Canada, BAC, affirme n'avoir jamais été interpellé par un dossier de cette nature et ne croit pas que le problème soit généralisé. Mais il indique qu'il consultera ses membres à ce sujet. Pourquoi le refus de l'avenant valeur à neuf pour un véhicule modifié? Le BAC explique que pour les véhicules modifiés, les assureurs refusent ou ont des réticences à offrir l'avenant valeur à neuf pour des véhicules sport, de luxe ou des camionnettes, soit parce qu'ils représentent un risque d'accident ou de vol plus grand, soit parce que le montant à débourser, advenant un sinistre, excède le montant que l'assureur est disposé à débourser, soit parce que le règlement d'un sinistre implique des travaux et une expertise particulière. TD Assurance se rétracte. Dans un courriel, TD nous affirme qu'elle compte mettre à jour ses polices d'assurance et s'excuse pour le cas de M. Migneron et Mme Dion. Nous sommes désolés de l'expérience vécue par notre client. Nous comptons les mettre à jour afin d'offrir des protections additionnelles pour les véhicules qui sont modifiés en raison d'une incapacité. Une citation de TD Assurance. TD Assurance affirme aussi que l'inclusion des personnes ayant une incapacité fait partie des valeurs fondamentales de la TD et nous sommes conscients que nous devons être à l'écoute de nos clients pour progresser à cet égard. À la suite de notre demande d'explication, TD Assurance a changé son fusil d'épaule. Elle a annoncé au couple qu'elle lui offrait l'avenant valeur à neuf. Mais pour Marie-Hélène Dion, il est trop tard. C'est plate qu'il ait fallu que plusieurs personnes interviennent pour qu'au final, il nous l'offre. C'est trop peu trop tard. Je me sens brimé dans mes droits. C'est pour ça qu'on a entamé des démarches auprès de la Commission des droits de la personne. Une citation de David Migneron. Plainte à la Commission des droits de la personne. Le couple ne souhaite pas que d'autres personnes vivent cette fâcheuse situation et veut que les choses changent. Il a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette dernière nous a indiqué qu'elle ne pouvait rien dire sur les enquêtes individuelles. C'était un automobiliste désavantagé par son handicap face à son assureur, un texte de Mélissa Pelletier, paru le 2 octobre 2024 dans Radio-Canada.
Symptômes de dépression saisonnière. 7 conseils pour la prévenir, un texte de l'agence QMI, paru le 2 octobre 2024, dans le Journal de Montréal. Alors que les jours raccourcissent et que les couleurs d'automne laisseront place à la grisaille, de nombreux Québécois pourraient commencer à se sentir plus moroses que d'habitude, voire carrément déprimés, un des nombreux symptômes de la dépression saisonnière. Voici ce qu'il y a à savoir sur ce trouble qui affecterait environ 20% de la population dans les pays nordiques comme le nôtre, selon le scientifique en chef du Québec, et quelques trucs pour limiter ses effets sur le corps. Qu'est-ce que la dépression saisonnière? Communément appelé trouble affectif saisonnier, TAS, ou Seasonal Affective Disorder, SAD en anglais, la dépression saisonnière est une forme de dépression liée à une période particulière de l'année, selon l'Association canadienne pour la santé mentale. Pour ceux qui en souffrent, les symptômes débutent dans la grande majorité des cas vers la fin de l'automne et peuvent durer tout l'hiver jusqu'au printemps. Dans quelques rares cas, la dépression saisonnière frappe plutôt en été. Les causes exactes de la dépression saisonnière ne sont pas connues, même si ce trouble semble être associé au manque de lumière, puisqu'il concorde généralement avec la diminution des heures de soleil durant la journée, selon Anorexie et Boulimie Québec, ANEB. En effet, le manque de lumière solaire impacterait ainsi le taux de sérotonine, surnommée l'hormone du bonheur, puisqu'elle agit directement sur l'humeur, provoquant une sensation de déprime et de fatigue. Selon l'organisme sans but lucratif, les jeunes adultes, âgés de moins de 50 ans, sont plus à risque de souffrir de la dépression saisonnière. Quels sont les symptômes de la dépression saisonnière? Les principaux symptômes de la dépression saisonnière apparaissent habituellement dès la fin de l'automne et disparaissent au printemps, lorsque les heures de soleil s'allongent. Ils sont, par ailleurs, très semblables aux symptômes de la dépression générale, selon la pharmacie Brunet et ANEB. Humeur dépressive, la majorité du temps, pensée négative par rapport à soi, incluant une dévalorisation ou un sentiment de culpabilité, irritabilité, désespoir, anxiété et ou colère, perte d'intérêt pour ses activités préférées, isolement, fatigue, trouble du sommeil et manque d'énergie, par exemple, avoir l'impression de ne jamais se sentir reposé ou de dormir trop, trouble de concentration, agitation ou ralentissement des mouvements ou du discours, perte ou prise de poids liée à une augmentation ou une perte d'appétit, augmenter sa consommation de drogue ou d'alcool comme mécanisme d'adaptation, pensée suicidaire. Quels sont les traitements? Il existe généralement trois différents moyens de traiter la dépression saisonnière: la luminothérapie, la médication et la psychothérapie. 1. Luminothérapie. Les lampes de luminothérapie sont conçues pour imiter les effets du soleil sur le corps en faisant augmenter les niveaux de sérotonine. Certaines d'entre elles sont, par ailleurs, munies d'une option d'éveil graduel et copient les effets d'un lever de soleil pour aider à réguler son rythme circadien. Dans certains cas, la luminothérapie se pratique par petites séances de 10 à 15 minutes dans la matinée, durant lesquelles le patient s'expose à la lumière pour atteindre 30 minutes au quotidien, selon ANEB. Cette pratique n'est cependant pas recommandée pour tous. Ceux qui souffrent de problèmes oculaires devraient consulter un professionnel de la santé avant de tenter cette thérapie, précise Brunet sur son site web. 2. Antidépresseurs. Le recours à la médication, comme aux antidépresseurs, peut s'avérer une manière nécessaire et efficace pour traiter les symptômes de la dépression saisonnière, dépendamment de la sévérité de ces symptômes. Il faut cependant consulter un médecin ou un psychiatre pour déterminer s'il s'agit d'une bonne solution pour soi. 3. Psychothérapie. Les experts recommandent également de se tourner vers la psychothérapie, plus précisément une thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour surmonter les effets de la dépression saisonnière, selon ANEB. Lors d'une TCC, Le thérapeute aidera son patient à se concentrer sur les humeurs et les émotions pour aider à mettre le doigt sur ce qui pourrait amplifier les symptômes dépressifs durant la saison grise. 7 petits trucs pour prévenir la dépression saisonnière. 1. Garder les rideaux ouverts. Durant la journée, il est conseillé de laisser pénétrer la lumière extérieure par les fenêtres pour tirer un maximum des journées qui rapetissent. 2. Instaurer une routine. Il est important de maintenir une routine du soir et de se coucher et se lever aux mêmes heures chaque jour afin de favoriser un bon sommeil réparateur. 3. Sortir de chez soi. Même avec les rideaux ouverts, l'éclairage dans la maison n'est pas suffisant à lui seul pour faire le plein de lumière naturelle. Profitez au maximum des heures d'ensoleillement et sortez prendre l'air au minimum une heure par jour, et ce, même en plein hiver. Il est par ailleurs recommandé d'allonger la promenade par temps gris. 4. Évitez les écrans avant de se mettre au lit. Il est recommandé d'éviter les écrans une heure avant de se coucher pour ne pas nuire à son sommeil, puisque la lumière bleue de ces appareils bloquerait la sécrétion de mélatonine, ce qui a pour effet de perturber la qualité du sommeil. 5. Maintenir des contacts avec ses proches. Pour éviter de s'isoler et de faire dégringoler son moral en restant seul avec son malheur, les experts recommandent de parler de ses symptômes avec ses proches. Une oreille attentive peut faire toute la différence, selon Brunet. 6. Pratiquer des exercices de respiration. Pour certains, des séances de méditation, de yoga ou encore de massothérapie, avec l'intention active de prendre soin de soi, peuvent aider à combattre les effets de la dépression saisonnière. 7. Faire de l'exercice. L'une des meilleures façons d'améliorer son humeur est de s'activer, puisque durant les exercices physiques, le corps libère des endorphines et d'autres substances qui soulagent la douleur et accroissent le sentiment de plaisir, selon l'Association canadienne pour la santé mentale. Il est ainsi recommandé de bouger entre 20 et 30 minutes par jour pour aider à protéger sa santé mentale. C'était « Symptômes de dépression saisonnière, 7 conseils pour la prévenir », un texte de l'agence QMI, paru le 2 octobre 2024 dans le Journal de Montréal.
Une militante handicapée est récompensée sans rampe d'accès pour fauteuil roulant. Un texte de Radio-Canada, paru le 29 septembre 2024 dans Ici, Nouvelle-Écosse. Une militante pour les droits des personnes handicapées a récemment été récompensée en Nouvelle-Écosse. Elle était une des lauréates d'un prix provincial qui sert à souligner le travail exemplaire des bénévoles. Lorsqu'elle s'est présentée, le 18 septembre, au centre communautaire RAT Eastlink à Truro, Nicole McDonald a constaté que la salle n'était pas équipée d'une rampe d'accès. Puisqu'elle se déplace en fauteuil roulant, la lauréate n'a pas pu monter sur la scène. Contrairement aux autres personnes qui ont reçu un hommage, c'est au parterre que Nicole McDonald a accepté son prix et reçu les félicitations d'usage. « Je suis reconnaissante, mais, malheureusement, mon bonheur a été assombri par l'inaccessibilité et par le sentiment de ne pas être aussi importante que les autres lauréats », a-t-elle déploré dans un message sur Facebook après la cérémonie. Une longue route vers l'accessibilité. Pour moi, recevoir mon prix en bas de la scène, c'est l'équivalent pour vous de recevoir votre prix derrière un rideau, a commenté Nicole McDonald dans une entrevue mercredi dernier. Elle en a profité pour rappeler que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'était engagé en 2022 à atteindre l'accessibilité complète pour les personnes handicapées d'ici 2030. Cela s'est passé 5 ans après l'adoption d'une loi provinciale sur l'accessibilité. En mai de cette année, Dawn Stegan, la directrice générale de la Direction de l'accessibilité de la Nouvelle-Écosse, la division du ministère de la Justice qui supervise ses efforts, a reconnu que la province accuse un retard de 3 ans pour ce qui est de la réalisation de son engagement. Nicole MacDonald dit qu'un représentant de la province a communiqué avec elle pour lui faire des excuses. Elle ajoute qu'elle aura l'occasion de rencontrer des gens du gouvernement pour discuter davantage d'accessibilité. « Si je peux faire changer d'avis une seule personne, c'est tout ce qui m'importe », a-t-elle confié. Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, qui a organisé la remise de prix, s'est dit profondément désolé que Mme MacDonald ait vécu cette expérience. Nous allons réviser nos procédures pour nous assurer que les installations avec lesquelles nous travaillons visent l'atteinte de nos normes provinciales en matière d'accessibilité, a-t-il écrit. Les 50e prix provinciaux du bénévolat. Une des lauréates du prix provincial du bénévolat dans la région d'Halifax, Nicole MacDonald, a reçu un hommage pour ses contributions remarquables à des organismes comme la Souls Harbor Rescue Mission et l'Association pour la vie communautaire de la Nouvelle-Écosse. Surmontant les défis du Spina Bifida, elle est un modèle de résilience et d'inspiration, lit-on dans la biographie qui accompagne la remise des prix. Son dévouement et ses efforts comme bénévole laissent une marque durable sur sa communauté, ajoute-t-on. C'était la 50e remise annuelle des prix provinciaux du bénévolat en Nouvelle-Écosse. Parmi les autres lauréats de cette année figure Shane Robichaud pour la municipalité de Clare. Le chef cuisinier y a créé un frigo communautaire pour combattre l'insécurité alimentaire. Heather Thompson, fondatrice de Ultimate Online Nova Scotia Kitchen Party au début de la pandémie de COVID-19, a reçu le prix Nova Scotia Strong, qui honore une personne ou un groupe qui fait preuve de résilience dans une communauté pendant une période ou un événement où les gens sont confrontés à l'adversité. Elle a reçu une toile créée par l'artiste visuel Benoît Paradis, résident de Pictou. C'était une militante handicapée est récompensée sans rampe d'accès pour fauteuil roulant. Un texte de Radio-Canada, paru le 29 septembre 2024 dans Ici Nouvelle-Écosse.